Il est 7h02. Bonjour, Tommy Chouinard.
Bonjour, Louis.
Allons-y donc avec une petite primeur ce matin, tiens.
Oui.
T'as mis la main sur les données d'Emma Québec. En fait, ce qu'a fait Emma Québec, c'est qu'eux autres, comme ils font des prises de sang, puis en fait des prélèvements sanguins, ils ont dit, on va en profiter pour voir s'il y a des traces de COVID-19 dans les échantillons qu'on prélève. Comme ça, on va être capable de savoir qui a été atteint, quel pourcentage de la population a été atteint.
Et le pourcentage, c'est un peu plus de 2% des adultes québécois, plus précisément 2,23% des adultes québécois qui auraient contracté la COVID-19 selon cette étude, donc qu'on dit sérologique, réalisée par Emma Québec. Ouais. J'ai obtenu ces résultats-là. Plus de détails, je me permets de le dire, se trouvent sur lapresse.ca en ce moment. L'organisme, donc, comme tu le dis, a analysé les échantillons de sang de donneurs. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on va donner du sang, chaque fois, Emma Québec garde aussi un échantillon sanguin de ces dons-là. Et l'organisme a donc analysé les échantillons de 7691 personnes âgées de 18 à 69 ans. C'est des gens qui ont fait un don de sang entre le 25 mai et le 9 juillet. L'objectif, comme tu l'as souligné, c'était d'estimer la proportion de Québécois qui ont été infectés par le coronavirus. Comment on fait ça? Bien, en analysant l'échantillon, les chercheurs découvrent des anticorps. Donc, des anticorps contre la COVID-19. Donc, c'est là la preuve, au fond, que la personne a effectivement eu la maladie. Chez les 7691 donneurs en question, il y en a 173 où on a découvert, donc, dans le sang, des anticorps contre le virus de la COVID-19. Emma Québec arrive et extrapole, donc, conclut, que 2,23% de la population adulte du Québec aurait contracté la COVID-19. En fait, c'est intéressant parce que ça, c'est trois fois plus que les données officielles sur les cas confirmés que produit donc le gouvernement du Québec. Parce que pour la cohorte des 20-69 ans, si on se rapporte à cette cohorte-là, donc on parle de 37 000 cas confirmés en laboratoire ou par lien, principalement, et par lien épidémiologique, donc à la suite d'une enquête sur les contacts. Et donc, on a 37 000 cas. Et là, on extrapole ce qu'on a découvert avec l'étude et on arrive à, dans le fond, c'est près de 125 000 personnes qui auraient contracté le virus. Donc, on arrive à un total de 2,23%. Là, évidemment, quand on dit ça, on se dit, bon, mais est-ce que c'est parce que les données officielles du gouvernement, c'est pas bon? Mais là, attention, parce qu'on présumait depuis longtemps que le taux d'infection à la COVID-19, au coronavirus, était plus important que les données officielles, puisque les données officielles se rapportent à des gens qui se font tester. Donc, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas été testés, des gens aussi qui n'ont pas eu de symptômes, donc ne soupçonnaient pas avoir été infectés par le coronavirus. Si on se compare un peu, Louis, ça peut être intéressant, parce que pas plus tard que lundi, une étude semblable a été rendue publique en Ontario. Et là, on a conclu que c'est environ 1% de la population de la province, 160 000 personnes ou à peu près, qui a contracté donc la COVID-19.
Donc, ça veut dire que c'est presque, en fait, c'est 2,5 fois plus important chez nous, là.
Mais, précisément. Oui. Et si on se rapporte aux données officielles de l'Ontario, on constate que le 1% dont on parle, c'est tout de même 4 fois plus que les données officielles qui étaient diffusées dans la province, qui portent toujours sur les cas confirmés, donc les gens qui ont été testés ou que dont on a conclu l'infection par lien épidémiologique.
Ouais.
Maintenant, si on décortique un peu, parce que l'étude ne présente pas simplement un portrait à l'échelle du Québec, mais on y va aussi par région. Bien, là, c'est première des choses, c'est pas tellement surprenant que c'est dans la région, dans les régions de Laval et de Montréal, où on enregistre donc le taux d'infection le plus élevé à un peu plus de 3%, 3,05%, donc au-dessus de la moyenne du Québec. Mais ce qui est peut-être un peu plus étonnant, je te dirais, c'est que les régions de Mauricie et du centre du Québec, qui, dans les données que l'on rapporte, sont beaucoup moins infectées, il y a beaucoup moins de cas rapportés dans ces régions-là, en fait, trois fois moins qu'à Montréal et à Laval, mais ils ont un taux de séroprévalence, donc un taux d'infection réel de près de 3%.
Okay.
Donc, on voit que là, il y a quand même un écart important.
Ouais.
Mais si on regarde en dehors du Grand Montréal, le taux est plus bas, là, globalement. on parle d'à peu près 1,29%.
OK, mais ça démontre que oui, c'est plus important que ce que les chiffres officiels effectivement donnent, sauf que on est loin, mais là extrêmement loin de ce que ça prend pour avoir ce qu'on appelle une immunité communautaire. Et on évalue à peu près à 70-75% le taux pour avoir une immunité communautaire. Alors, on est loin de là. Hein?
On est très, très loin de là. D'une part, c'est l'immunité collective. Donc, on voit qu'elle n'est certainement pas atteinte là, selon cette étude-là. Et c'est ce qui fait en sorte que la perspective de la deuxième vague, là, il faut s'y préparer parce que là, donc, il peut y avoir... quand même une contamination, une propagation encore du virus qui est importante. Parce que là, on le sait, là, il n'y aura pas de confinement généralisé à moins d'une véritable catastrophe. Parce qu'on ne sait pas. La deuxième vague, est-ce que ça va être une vaguelette ou un tsunami? Difficile de prédire. Mais là, les gens vont être au travail. Les écoles sont ouvertes. Donc, c'est un ensemble. Et on a commencé à accepter un peu plus, les contacts sociaux avec les règles de rassemblement, les bars et tout ça. Donc, il va falloir surveiller ça assez de façon assez importante. Mais le ministère de la Santé s'y prépare. Mais là, il va falloir juste un test. C'est pas un test, là. C'est la réalité, là. Exact. Donc, ça va être important ce qui va se passer. Mais je te dirais que sur ces données-là, ailleurs, là, si on prend l'exemple, je pense que c'est dans l'État de New York, là, où le taux d'infection, on a dit, il y a une étude que j'ai vue, on parlait d'une personne sur cinq. Qui aurait contracté la COVID-19. Donc,
alors, ça, c'est du 20 %, là.
C'est du 20 %, là. Donc, c'est presque 10 fois plus qu'au Québec.
Ouais. Alors,
donc, en même temps, est-ce que ça montre aussi ce taux de 2,23 % que oui, c'est plus élevé que les données officielles, mais en même temps, ça illustre le respect des consignes sanitaires et du confinement, d'une part. Puis deuxièmement, on voit que par rapport à l'Ontario, le taux de pénétration, si on veut, du coronavirus a été plus important.
Voilà.
Tout de même.
Bon, maintenant, parlons un peu des fameux anges, n'est-ce pas? et de leur statut qui était un peu dans la balance, finalement, entre Québec et Ottawa. Il y avait une négociation à savoir ce qu'on les reconnaissait. On parle des immigrants, par exemple, qui étaient arrivés ici, qui ont travaillé pour combattre la COVID-19, puis on leur accordait pas le statut de réfugiés, finalement.
Exactement. En fait, c'est une image forte, je pense, de la pandémie qui a permis de lutter contre les préjugés, les stéréotypes.
Oui.
Donc, ces demandeurs d'asile qui étaient venus demander notre aide, dans le fond, ils étaient là pour aider nos personnes âgées dans les établissements de santé, puis en particulier dans les CHSLD. On le sait, le premier ministre fédéral, donc Justin Trudeau, a dit, moi, je suis prêt à régulariser leur statut, donc le statut des gens qui ont contribué à la lutte contre la COVID-19 en leur accordant la résidence permanente. Mais pour y arriver, faut une entente avec le gouvernement du Québec. Au départ, le premier ministre François Trudeau n'était pas très chaud à l'idée. François Legault, pardon. c'est un beau lapsus. François Legault n'était pas très chaud, pardon, à cette idée-là. Il se disait, je veux pas envoyer le signal que il y a comme un automatisme là, qu'on peut accorder un statut si on a un emploi au Québec. Par la suite, il a dit, on serait prêt à regarder au cas par cas. Donc, les demandes d'asile donc de ces personnes-là qui ont contribué à la lutte. Au cours des dernières semaines, il y a eu des négociations et on est tout près d'une entente. C'est le collègue Joël-Denis Bellavance de La Presse qui écrit ça ce matin. En fait, on est tout près d'une entente. Il est question de... Il reste à faire un petit peu de précision sur les critères d'accès à cette résidence permanente-là. Est-ce que, par exemple... Au départ, le gouvernement du Québec voulait limiter ça peut-être aux préposés, aux bénéficiaires, alors que le gouvernement fédéral disait non, moi je vois tous les gens qui ont travaillé dans les établissements de santé, y compris les préposés à l'entretien, y compris les agents de sécurité.
C'est ça.
Et là, on est en train de circonscrire ça. Donc, et là, il est question d'accorder ce statut-là aux personnes qui, même risque.
Ouais.
C'est ça, parce que on se souvient quand même, c'est des gens qui étaient là pour travailler dans le contexte où on était pénurie de main-d'œuvre. Il y avait de l'absence dans le réseau. Donc, ces personnes-là se sont exposées à certains risques. Et là, on va évaluer, en fonction de la position, des fonctions occupées par ces personnes-là, qui va pouvoir finalement avoir ce statut régularisé. On devrait avoir des nouvelles de ça d'ici peu, deux, trois semaines peut-être.
Monsieur Chouinard, merci beaucoup. On se parle demain.
On se parle demain.
Salut, au revoir.
Bye.
Sur l'autoroute 40, Linda.